France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie Perrier, des moines bouddhistes en Birmanie qui veulent démentir les plus extrémistes d'entre eux.
Car depuis la crise des Rohingyas, on le sait, certains bouddhistes se livrent à des attaques racistes, islamophobes, contre cette minorité musulmane, obligée de fuir par centaines de milliers au Bangladesh voisin. L'une des figures de ce nationalisme bouddhiste, c'est ce moine, Viratu, surnommé le Ben Laden bouddhiste.
Il y a dans notre pays deux problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément. Le premier, c'est la transition démocratique. Le second, c'est la propagation de l'islam. Vous savez, je vais vous dire, les hindouistes sont courtois, les chrétiens sont très respectueux, mais les musulmans, eux, sont pleins de haine.
Voilà, c'est bien un moine hein, qui parle ici. Il appelle à la haine, aux violences, au lynchage. Il refuse d'utiliser le mot Rohingya. Il préfère parler de terroristes musulmans. Il soutient les exactions de l'armée. Au passage, Barbet Schroeder en a fait un film, hein, Le Vénérable W. Et il y a quelques jours, un mandat d'arrêt pour incitation à la haine a été émis contre Viratu. Mais il reste très écouté, ce moine. Ainsi, il y a quelques semaines, en plein ramadan, des nationalistes ont interrompu la prière dans plusieurs endroits de Rangoon. Alors, en réaction, des activistes bouddhistes modérés ont décidé, eux, de se rassembler à la sortie des mosquées pour distribuer des roses blanches pendant le ramadan. Une centaine de volontaires donc ont distribué des fleurs tout au long du mois de jeûne sur une vingtaine de sites partout dans le pays.
Amélie, eux aussi vivent dans un pays où ils sont minoritaires et maltraités.
Mais là, c'est plus une question de langue que de religion. Les anglophones au Cameroun, c'est la crise humanitaire la plus négligée au monde, selon une ONG norvégienne, NRC, présente là-bas depuis 2 ans. La communauté internationale demeure passive, tandis que la crise se poursuit et qu'elle se rapproche dangereusement d'une guerre sans merci. Ces régions anglophones, ce sont celles à l'ouest du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, pris dans les tumultes de la colonisation et des déclarations d'indépendance. Aujourd'hui, ces régions à l'ouest représentent 20% quand même des 22 millions de Camerounais. L'armée considère là aussi les séparatistes comme des terroristes. Chaque camp s'est radicalisé à coups d'enlèvements, de meurtres, d'incendies. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer pour fuir les violences. L'an dernier, quand le président Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat au Cameroun, voilà ce qu'il promettait lors de son investiture.
Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours.
Et comme on peut s'en douter, 7 mois plus tard, rien n'a avancé, ou presque. Le chef séparatiste Julius Ayuk Tabe, emprisonné à Yaoundé pour terrorisme et sécession, se dit prêt à participer à des pourparlers, mais seulement à l'étranger. Les ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accusent de leur côté le Conseil de sécurité de l'ONU de garder un silence coupable sur cette région du monde. Dans un rapport présenté cette semaine par le secrétaire général Antonio Guterres, on note que les violences et les abus sont perpétrés tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés séparatistes.
Allez, Amélie, pour terminer un peu plus légèrement, voici une belle histoire de chance et de famille.
Ah oui, vous connaissez les fortune cookies, ben Fabienne, oui. Ces biscuits que l'on distribue souvent au resto chinois. Vous les cassez à l'intérieur, une maxime, une pensée, un horoscope et quelques chiffres. Oui, ces numéros, Charles W. Jackson les avait notés après un dîner avec sa petite fille. Et depuis 2 ans, il jouait toujours ces numéros-là. Et là, bingo, il a décroché le gros lot. 345 millions de dollars. Écoutez, ce retraité heureux en Caroline du Nord. Oui, il a un accent. Je ne sais pas quoi faire de la majorité de toute cette somme-là. J'espère que je ne vais pas changer trop et je vais essayer de ne pas changer ma vie. Et comme je dis, je continuerai à porter des jeans. Alors peut-être des jeans un peu plus neufs.
Oui, mais il peut s'acheter même une usine, je pense, voir le pays qui fabrique les jeans. Allez-y.
Effectivement, Charles avait le choix en fait, entre recevoir ses 345 millions en versement étalé sur 30 ans ou toucher tout de suite une somme un peu réduite. Alors Charles, il a 66 ans. Il a préféré empocher dès maintenant 223 millions de dollars.
C'est bizarre, il est joueur. La moitié ou
ouais,
un peu plus.
Ouais. Il est joueur, mais prudent quand même.
Quel âge il a ?
66 ans.
Bah oui,
66 ouais. Plus 30, ouais, voilà. 96. Bon, on est joueur, mais pas trop. Voilà.
Allez, Amélie Perrier, allez jouer pour nous. Puis non, parce que ça marche jamais cette
non,
histoire.
Non, ça marche pas.
C'est que dans les histoires de radio. Allez, à demain.